pendant les vacances, on apprend parfois de loin de mauvaises nouvelles. Et puis quand on est de retour, eh ben, on a comme l'impression que le ciel vous est tombé sur la tête. Ben, vous savez bien de quoi, enfin de qui je veux parler. Vous n'avez pas reconnu ce rythme, je vous croirais pas, même si l'on en a extrait de manière chirurgicale tout ce qui reposait dessus, la voix, la mélodie, la guitare, la basse et les fameux chœurs, les fameux wou-wou. Il y a des maracas, il y a des congas et une simple batterie. Et quand je dis simple, vous allez l'entendre, c'est au plein sens du terme. Un rythme brésilien de samba, qui n'a pourtant rien de festif, un rythme de trance qui évoque les sources mystiques de ce qu'on appelle le candomblé. C'est cette religion animiste qu'ont apporté avec eux sur les côtes du Brésil des esclaves arrachés par les marchands portugais au peuple d'Afrique de l'Ouest. Et le musicien qu'on entend, c'est d'ailleurs un Ghanéen. Un émigré clandestin, c'est lui qui joue des congas, arrivé illégalement en Grande-Bretagne à la fin des années 60, Rocky Gijornu, qui joue des congas, comme je vous l'ai dit. Et voilà, évidemment, l'indice final, c'est un musicien qui tient habituellement la basse, Bill Wyman, qu'on entend au maracas. Bon, évidemment, le batteur, évidemment, enfin, c'est, hélas, c'était Charlie Watts. Certes, c'est Keith Richards qui, d'après ce qu'on dit, a eu l'idée d'injecter un rythme de samba à cette chanson des Stones que Jagger avait composée seul, une chanson éblouissante dans laquelle Jagger rappelait aux jeunes et moins jeunes occidentaux sur quels crimes et assassinats maléfiques reposait leur civilisation. Sympathy for the Devil, où il adoptait à la première personne le point de vue du diable qui proclamait être derrière tout ça. Mais enfin, celui qui a trouvé ce rythme, qui en a été l'architecte, c'est Charlie Watts. Un rythme de jazz très prenant. Et d'ailleurs, il s'est inspiré, selon son propre témoignage, de Kenny Clarke, un très grand batteur américain de jazz, évidemment, qui avait bâti l'essentiel de sa carrière en France. Un musicien qui avait accompagné Miles Davis et puis aussi joué avec Claude Nougaro et qui était ennemi des fioritures et des vaines démonstrations de virtuosité. Comme Charlie Watts, dont c'était légendaire, la batterie était réduite à 4 fûts, grosse caisse, tom médium, tom basse et caisse claire. Et c'est tout, il n'a jamais varié. Alors c'est assez paradoxal, enfin en apparence, de rendre hommage à un batteur dont le but au sein du groupe dont il faisait partie était de s'effacer, pour mieux en être le pilier caché et l'architecte invisible. Charlie Watts, dont on a appris, ben vous le savez, la disparition il y a quelques jours des suites d'un cancer dont il devait réchapper par miracle il y a une quinzaine d'années. Alors que les Stones venaient tout juste d'annoncer une nouvelle tournée avec un batteur remplaçant, tournée d'ailleurs qu'ils viennent de confirmer, eh bien Charlie Watts venait de déclarer il y a quelques à peine une semaine, avec cet humour laconique qui le caractérisait, c'est bien la première fois que je ne suis pas tout à fait en rythme. Et voilà, et quelques jours plus tard, il disparaissait. Et voici ce qu'il disait, ça m'a frappé quand on réentend, comme je l'ai fait pour préparer cette émission, voilà, les chansons préférées des Stones. « Je n'aime pas les solos de batterie, j'admire certains de ceux qui en font, mais en général, je préfère les batteurs qui se contentent de jouer avec le groupe. » Le défi du rock'n'roll, c'est la régularité. Et mon truc, c'est de rendre ça dansant. Il faut que ça swing, il faut que ça rebondisse. Et comme a dit le guitariste Ron Wood, membre des Stones depuis 45 ans déjà, Charlie, c'est le moteur. Et sans moteur, eh bien, on ne va nulle part. Alors écoutez cette reprise qu'ont enregistrée les Stones à leur début fin 64, Little Red Rooster, Un blues écrit et interprété à l'origine par Willie Dixon, un des piliers du blues de Chicago. Il était venu, alors que les Stones étaient de jeunes blancs-becs, à Londres, avec un autre géant de la période, Howlin' Wolf. Et les très jeunes Rolling Stones, ébahis, l'avaient vu et entendu interpréter cette chanson dans Little Red Rooster, juste en tapant des pieds et en tambourinant sur le dossier d'une chaise. Alors forcément, quand vous voyez ça, vous comprenez que pour atteindre un maximum d'efficacité, il faut savoir en faire un minimum, mais un minimum qui swing. Et c'est tout un art qui était, dès le début, celui de Charlie Watts. Alors d'abord Little Red Rooster, puis ensuite une des meilleures parmi les premières compositions originales de Mick Jagger et Keith Richards, 19th Nerves Breakdown, sorti début 66 en 45 tours, quelques mois après Satisfaction.
Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep everything in the farm. Upset in every way. The dogs begin to bark. Hounds begin to howl. Dogs begin to bark. Begin to howl. Watch out, strange camp people. Little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, drive him home. If you see my little red rooster, please drive him home. Ain't had no peace in the farm yard since my little red rooster's been gone.
je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire le titre de la chanson que vous venez d'entendre, encore moins le nom du groupe qui l'interprétait, mais il y a un truc que j'ai appris en m'informant et que d'ailleurs que j'ignorais, c'est la source de cette ultra célèbre riff de guitare au son bizarrement saturé. Un effet, entre parenthèses, qui paraissait horriblement putassier, entre guillemets, aux puristes du blues qui étaient au sein des Stones, Brian Jones. Eh bien, en fait, il s'agissait à l'origine d'une sorte de mémo audio que Keith Richards avait enregistré une nuit dans une chambre d'hôtel sur un magnéto portable à cassette. Et ce riff était simplement censé servir de source à une éventuelle section de cuivre qui ne fut finalement jamais enregistrée. Au lieu de ça, la pédale d'effet baptisée Fuzz, à la source de ce son grésillant, comme détraqué, fascina toute une génération de jeunes musiciens, petits frères et cousins provinciaux des Stones qui se précipitèrent pour se la procurer. Dans leur garage, ils pouvaient comme ça cacher leurs limites et parfois leur incompétence à la guitare derrière le crachotis de la fameuse pédale Fuzz Maestro. Mais enfin, il n'y a pas que ça qui explique la magie, bien sûr, de I Can't Get No Satisfaction, les paroles fulgurantes de Jagger, bien sûr, sa façon si particulière de les chanter, tantôt veule, tantôt fébrile, celle d'une certaine arrogance aussi, celle d'un adolescent qui voudrait avoir plus de poids dans l'existence, dans la société et qui ne sait pas vraiment comment le dire. Mais enfin, prenez Satisfaction et en ôtant le rythme élégamment, finement tribal trouvé par Charlie Watts, eh bien, la magie n'est plus là et la transe ne monte pas. Comme je l'ai souligné, Charlie Watts était un maître de la sobriété et de l'économie de moyens. Et l'incarnation peut-être, l'incarnation même de cet aphorisme maintes fois cité, dû à l'architecte américain d'origine allemande, Mies van der Rohe, qui était l'aphorisme qui dit « less is more », moins c'est plus. Mais cette sobriété était à l'opposé de la platitude et de la banalité. C'était comme une distillation, une réduction à l'essentiel en quelques traits simples. Charlie Watts, il faut le rappeler, était graphiste et dessinateur de formation et on voyait fréquemment d'ailleurs sa patte dans les pochettes des albums des Stones et c'est aussi lui qui concevait en scénographe l'architecture des scènes sur lesquelles le groupe se produisait en tournée. On dit aussi que Charlie Watts s'amusait à dessiner au moyen de feutres, j'imagine, sur les draps des lits des chambres d'hôtel où il séjournait. Eh bien, ses talents de dessinateur, de certaine façon, s'appliquaient aussi à la musique, de graphiste en tout cas, cette simplicité qu'il atteignait est, faut le dire, le contraire du simplisme, c'est en fait la recherche de l'essentiel, de la fulgurance, on pourrait dire. Alors voici quelques exemples de ce qu'on peut juger être la meilleure période des Stones. Alors je suis conscient qu'il puisse y avoir des avis divergents du mien. Pour moi, c'est la fin des années 60. Et dans chacune des chansons qu'on va entendre, de Under My Thumb à Gimme Shelter, en passant par Street Fighting Man et Stray Cat Blues, eh bien, il y a un certain schéma rythmique à l'implacable régularité, certes, mais aussi à la réelle finesse et à la souplesse venue, alors c'est évident à entendre du jazz et du jazz seul, avec une élégance qui n'appartenait qu'à lui, élégance d'ailleurs évidemment qu'on retrouvait dans son style vestimentaire. Et il avait un côté comme ça, statue du commandeur impassible qui me faisait penser à Leonard Cohen, d'une certaine façon. Et d'ailleurs, quand je parle des sources jazz de Charlie Watts, c'était loin d'être le seul de ces grands batteurs du rock anglais des années 60, à l'exception sans doute de Ringo Starr, mais enfin Ringo, de toute façon, était totalement à part. Oui, les plus grands batteurs du rock anglais, je pense en particulier à Keith Moon des Who et à Ginger Baker, cofondateur du trio Cream, avec Eric Clapton et Jack Bruce, évidemment, venaient du jazz. Jack Bruce, avec lequel Charlie Watts avait joué à ses débuts au sein du groupe de Alexis Corner, le pape du jazz, des rhythm and blues à Londres, chez qui tous les futurs Stones étaient passés. Push me around. It's down to me.
Very good trip, Mishka.
Mishka.
Mishka Asayas.
I'm very chic.
For
Bon, ça fait toujours plaisir d'entendre Honky Tonk Women, mais c'est le premier titre dans lequel on a entendu le jeu de guitare de Mick Taylor, qui avait remplacé Brian Jones avant qu'on apprenne sa mort tragique. Et d'ailleurs, je vous disais que la période préférée que j'avais des Stones était la fin des années 60. Il y en a d'autres qui considèrent, et d'ailleurs Charlie Watts en premier, que la période dorée des Stones, c'était celle où jouait Mick Taylor, qui est sans doute le guitariste le plus brillant qu'ils aient eu durant leur carrière. Voilà, ça, tout ça se commente évidemment. Mais je voulais surtout ne pas oublier de vous faire entendre un exemple de la finesse et de la sobriété du jeu de Charlie Watts. C'est une de mes chansons préférées qu'on trouve dans l'album Beggar's Banquet, qui est Stray Cat Blues. Rape, murder is just a shot away. Le viol, le meurtre, c'est difficile à traduire. It's just a shot away, disons. Il s'en foudrait juste d'un tir, juste un tir. Et l'horreur démarre, manière de dire, voilà, on est au bord du gouffre, juste un pas, et on bascule dans l'horreur, dans la guerre, enfin, et tout ce qu'elle entraîne. La guerre était très présente quand Jagger a écrit les paroles de cette chanson très connue, Gimme Shelter. L'intervention américaine au Vietnam, bien sûr. Mais il n'y avait pas que la guerre au sens propre, il y avait aussi la haine et la violence qui surgissait là où l'on s'y attendait le moins, comme du sein de la trop tristement célèbre secte hippie de Charles Manson, dont des fanatiques venaient d'assassiner Sharon Tate, l'actrice américaine qui avait récemment épousé Roman Polanski. C'est pas un hasard si Keith Richards avait trouvé ce riff et cette ambiance de sarabande infernale un soir où l'orage grondait. Et la voix extraordinaire féminine qui hurle désespérément comme en proie à la panique, ses paroles terribles et menaçantes, c'était celle de la choriste noire américaine Mary Clayton. On était, enfin l'histoire le dit, allé la cueillir chez elle tard le soir alors qu'elle était en chemise de nuit et bigoudi parce que brusquement les Stones ont eu besoin d'elle dans un studio de Los Angeles. Voilà, c'est resté légendaire. Alors faut que je fasse un aveu qui va faire bondir pas mal d'entre vous, qui va sans doute ôter toute crédibilité à tout ce que je peux vous raconter sur les Stones. J'en connais qui les ont vus 5, 10, 15, voire 20 fois sur scène, et ben moi, presque toute ma vie, je dois faire cet aveu, je les ai snobés. Pas du tout, parce qu'ils m'étaient indifférents. J'allais dire au contraire. Ce groupe m'avait tellement impressionné durant mon enfance, j'avais tant et tant rêvé devant les pochettes de leurs disques, surtout les 45 tours, je me rappelle encore celle de Jumpin' Jack Flash, où ils étaient grimés en clown d'un cirque maléfique, que je préférais au fond que les Stones restent pour moi un fantasme plutôt qu'une réalité. J'estimais qu'ils avaient mal tourné, je me projetais dans une pseudo-élite qui, à tort ou à raison, en grande partie à tort, faut bien l'admettre aujourd'hui, jugeait les Stones finis, largués, dépassés par des groupes comme Alice Cooper ou Roxy Music. Et puis quand The Clash est arrivé, Joe Strummer avait aboyé, et j'y croyais à mort, que, je cite la chanson 1977, en 77, il n'y a plus d'Elvis, plus de Beatles et plus de Rolling Stones. Et c'est vrai, Elvis venait de mourir, les Beatles étaient enterrés depuis 7 ans, il restait que de la nostalgie, et dire ça, évidemment, à propos des Stones, eh bien, c'était une provocation punk, bien sûr. Mais enfin, il y avait du vrai. Les Stones, qui avaient représenté l'insolence et la provocation, semblaient dépassés, déphasés, courant après les modes. Enfin bref, longtemps, après toutes ces histoires qui, aujourd'hui, n'ont plus beaucoup de sens, j'ai fini par aller les voir, les Stones, au Stade de France, en juin 2014, et j'ai été époustouflé. Au fond, les Stones ont bien mieux vieilli que ceux qui ont voulu les déloger, il faut l'admettre, parce qu'au fond, chez eux, il a pu y avoir de l'essoufflement, bon c'est humain, mais jamais de nihilisme, de négativité, de désespoir ou de haine. Il restait chez Jagger l'élan de l'enfance, ce désir éperdu, resté présent dans sa génération, celle qui est en train, à l'heure où je vous parle, de disparaître. Eh bien, il y avait ce désir éperdu d'effacer les horreurs de la Seconde Guerre mondiale en convoquant des forces ancestrales, mais au service de la joie, de la fête, la délivrance des interdits et le dérèglement de tous les sens, comme disait l'autre. Et comment dire, en les découvrant sur scène, j'ai compris Charlie Watts, pour ainsi dire. Le chef, c'était lui. C'était dingue, ils se retournaient tous pour le regarder, s'appuyer sur lui, et lui, tout en réserve, mais en intensité, sourire en coin, rayonner d'une espèce d'autorité, cette espèce de fil de fer animé que je n'avais jamais vu, une autorité comme en sourdine, c'était éblouissant, une révélation pour moi, et vraiment je ne l'oublierai jamais. Tout de suite, extrait de l'album Exile on Main Street, un titre qui sonnait déjà très rétro en 72, Shake Your Hips, c'est l'œuvre de Slim Harpo, un musicien de blues louisianais, on le surnommait Harpo pour sa maîtrise de l'harmonica, qu'on peut appeler harp aux États-Unis, où vous allez entendre Charlie Watts semble promener ses baguettes sur un étui de guitare, et le groupe semble enregistrer dans un réduit dans un pauvre micro. On les crédite pas assez souvent pour ça, mais à leur meilleur, les Stones se révèlent les maîtres du minimalisme. Don't move your lips. Just
Sur France Inter, Mishka Assayas.
Des chansons les plus étranges, mystérieuses, on pourrait dire, dues aux Rolling Stones. I Just Want to See His Face, on la trouve dans le foisonnant double album Exile on Main Street, qui est paru en 72, le dernier des Stones à m'avoir fasciné et captivé. Cette chanson est le résultat d'une improvisation à deux, entre Charlie Watts à la batterie, évidemment, et Mick Taylor, habituellement guitariste, évidemment, qui tient pour la circonstance la basse électrique, et il y a un musicien américain blanc de Memphis formé à la soul, Bobby Whitlock, qu'on entend au piano électrique comme s'il était dans un temple d'une petite ville du sud-est des États-Unis. Et il y a aussi évidemment des choristes de gospel, vous avez entendu. Il y a un climat comme indéfinissable, moite, on a l'impression d'entendre l'écho d'une étrange cérémonie animiste à la tombée de la nuit, dont les sons sont portés par les vents chauds qui traversent une forêt vierge envahie par des eaux marécageuses et des créatures inquiétantes. Alors, voilà, je vais maintenant me livrer à une petite séquence spéciale copinage, hein, comme on disait autrefois dans le Charlie Hebdo de Cavana. J'ai un copain journaliste, Marc Dolizy, qui m'a envoyé cet été le manuscrit d'un livre dont le point de départ est le suivant. Un matin, un Français ordinaire, hein, d'une cinquantaine, soixantaine d'années, je ne me rappelle plus bien, hein, se réveille dans la peau de quelqu'un d'autre. Non pas d'un monstrueux insecte, hein, comme dans la métamorphose de Kafka, mais dans celle de Charlie Watts, précisément à l'aube du jour où les Stones doivent donner leur grand concert à Cuba, hein, c'était en 2016. Alors évidemment, le troublant dans l'affaire, c'est que 15 jours plus tard, j'ai appris, comme tout le monde, à la mort de Charlie Watts, comme si Marc avait été traversé par une mystérieuse prémonition. Enfin, évidemment, hélas, les causes de la mort du batteur sont, on le sait, tristement banales. Mais enfin, dans le récit de Marc Dolizy, apparaître dans un mois et demi sous le titre de transfert sous-titré « Je suis Charlie Watts », franchement, je lui dis, je préfère le sous-titre. Eh bien, d'ailleurs, c'est un récit assez baroque qui rappelle parfois un certain fantastique latino-américain. On apprend plein de choses étonnantes. Par exemple, que Charlie Watts n'écoutait jamais la musique des Stones chez lui et qu'il considérait que son poste au sein des Stones était un job comme un autre. Et Marc Dolizy a une belle formule pour évoquer sa présence sur scène, je la cite, comme un lac de montagne, paisible, lisse, pareil à une étendue d'eau dont aucun vent, aucune contrariété ne peut venir rider la surface. Voilà, si vous êtes curieux de cette vision, version, comment dire, réalisme fantastique de la vie de Charlie Watts, eh bien le livre de Marc Dolizy sera diffusé dans un peu plus d'un mois chez l'éditeur Éric Bonnier.